Le commandant Didi Warren se fichait éperdument de ce que Colin Pickler avait pu dire sur les délinquants sexuels considérés comme des modèles de remis en liberté conditionnels, pleins de repentir et désireux de plaire à la nounou que leur avait attribué le tribunal. Didi avait servi 8 ans en tenue et, pour avoir trop souvent été la première intervenante auprès de mères hystériques et d'enfants au regard vitreux, elle était fermement convaincue que pour les délinquants sexuels, l'enfer était encore trop doux. Dans son métier, chaque assassinat faisait place au suivant. Mais les agressions sexuelles sur mineurs laissaient toujours une trace. Elle se souvenait encore de la fois où elle avait été appelée dans une maternelle après qu'un garçonnet de 5 ans avait révélé à son enseignant qu'il avait été agressé dans les toilettes. L'agresseur présumé, un camarade de classe, un autre enfant de 5 ans. Après enquête plus approfondie, Didier et son collègue avaient découvert que le suspect ne vivait pas avec un, mais 2 délinquants sexuels fichés. Le premier étant son père, le deuxième son frère aîné. Didier et son collègue avaient dûment signalé l'incident aux services sociaux, naïvement persuadés que cela changerait quelque chose. Non, les services sociaux avaient jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de briser la famille. Au lieu de cela, le gamin avait été renvoyé de la maternelle pour attouchement sur un camarade de classe, et il ne s'était strictement rien passé d'autre jusqu'à ce que 6 mois plus tard, Didier ne recroise le même gamin. Cette fois-ci, il avait été témoin d'un triple homicide perpétré par son grand frère. Didi rêvait encore parfois des yeux gris et vides de l'enfant. L'impuissance étudiée avec laquelle il racontait, sans émotion, comment son frère de 16 ans s'était garé devant la supérette, comment il avait suivi son grand frère dans le magasin en croyant obtenir des gâteaux. Au lieu de cela, son frère avait sorti un pistolet et lorsque le vendeur de 19 ans avait hésité, il avait ouvert le feu sur lui et sur 2 autres gamins qui s'étaient trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Didi avait pris la déposition du garçon, après quoi elle l'avait renvoyé chez lui auprès de son père délinquant sexuel. L'administration ne lui donnait pas d'autre choix. Cette affaire remontait à 12 ans. De temps à autre, Didier était tenté de faire des recherches sur le nom du garçon pour voir ce qu'il était devenu. Mais elle n'en avait pas vraiment besoin. Un enfant comme ça, qui dès l'âge de 5 ans avait subi des agressions sexuelles à répétition et avait lui-même agressé avant d'être témoin d'un triple meurtre, bon, on ne pouvait pas penser qu'il allait devenir président, pas vrai? Il y avait d'autres histoires, évidemment. La fois où elle était arrivée dans un immeuble délabré pour découvrir la femme, devant le corps sans vie de son mari. Le couteau de cuisine toujours à la main, juste au cas où, après avoir reçu plus d'une 20aine de coups de couteau, il arriverait à se relever. Il s'avéra que la femme avait découvert le dossier secret de son mari sur l'ordinateur. Celui où il stockait les vidéos amateurs qu'il tournait tous les soirs quand il couchait avec leurs 2 filles. Curieusement, les fillettes avaient parlé une première fois quand elles avaient 7 et 9 ans, mais lorsque la police avait enquêté, elles n'avaient trouvé aucune preuve d'abus sexuel. Les filles avaient fait une nouvelle tentative à l'âge de 12 et 14 ans, mais à cette époque, vu leur penchant pour les mini-jupes et les bustiers moulants, leur mère elle-même ne les avait pas jugées crédibles. Les vidéos, en revanche, l'avaient convaincue. Elle avait donc charcuté son mari, puis avait rapidement sombré dans une profonde dépression après que son avocat commis d'office l'avait tiré d'affaire. Quant aux 2 filles, victimes d'inceste depuis l'âge de 4 et 6 ans, et dont les vidéos des multiples agressions étaient tellement dispersées sur Internet qu'il était impossible de les récupérer, là encore on ne pouvait pas penser que l'une ou l'autre allait devenir présidente, pas vrai? Didi et Miller se garèrent à l'adresse que Colin Pickler leur avait indiquée pour Aidan Brewster. Didi pratiquait déjà ses exercices de respiration ventrale et essayait d'empêcher ses poings de se serrer instinctivement. La conseillère d'insertion leur avait conseillé de la jouer sympa. La plupart des délinquants sexuels sont faibles par tempérament et souffrent d'un déficit de l'estime de soi. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à des enfants ou qu'à 19 ans, ils se sentent plus à l'aise avec une petite amie de 14. Si vous lui tombez dessus à bras raccourcis, il ne le supportera pas, les avait-elle mis en garde. Il se renfermera sur lui-même et tous vos efforts ne vous mèneront nulle part. Commencez par devenir son ami, ensuite serrez-lui la vis. Ce plan de faire copain-copain ne marcherait jamais avec Didi. Donc, par accord tacite, Miller allait prendre la direction des opérations. Il descendit de voiture le premier et elle le suivit dans l'allée jusqu'au modeste pavillon des années 50. Miller toqua. Pas de réponse. Il s'y attendait. Ils avaient déjà appris par les deux agents en uniforme que Sandra Jones faisait entretenir sa voiture dans le garage où il travaillait. Colin Pickler les avait appelés moins d'une heure plus tard, car le patron du garage, Vito Marcello, l'avait informé qu'il avait enfin mis fin au contrat d'Aidan Brewster. De l'avis général, Aidan avait la frousse. Mieux valait lui mettre le grappin dessus avant qu'il ne prenne la tangente. Miller frappa de nouveau, puis colla sa plaque à la fenêtre de côté. « Aidan Brewster » cria-t-il. « Police de Boston, ouvrez mon vieux, on veut seulement vous parler. » Didi prit l'air sceptique et souffla avec impatience. Défoncer la porte serait beaucoup plus gratifiant à son avis, même si les juges ne voyaient pas ce genre de choses d'un bon œil. Pile au moment où elle se disait qu'elle allait peut-être voir son vœu se réaliser, on entendit un bruit de verrou. Puis la porte s'entr'ouvrit dans un grincement. « Je veux une protection policière », déclara Aidan Brewster. Le corps dissimulé derrière la porte, il avait le regard fou. « Les mecs du garage vont me tuer, je le sais. » Miller ne s'avança pas. Tout comme Didi, il changea imperceptiblement de position, prêt à bondir, la main droite à l'intérieur du blouson, à côté de son étui de revolver. « Pourquoi vous ne sortiriez pas de derrière cette porte ? » dit-il calmement, « qu'on puisse se parler en face à face. »« Je suis en face de vous, » répondit le délinquant sexuel interloqué. « Et j'essaie de parler. Je vous dis que Vito m'a balancé. Il a dit aux gars que j'étais un pervers fiché. Alors ils sont furax, vous savez. Des types comme eux ne sont pas censés traîner avec des lopettes comme moi. C'est clair, je suis mort. » « Est-ce que quelqu'un a proféré des menaces explicites ?» intervint Didi, un pas derrière Miller, en s'efforçant d'adopter le même ton calme et mesuré que lui, alors que ses doigts dansaient sur la crosse de son Glock 40. « Explicite ?» reprit le jeune homme avec un surcroît d'agitation. « Ce n'est pas une chose qu'on a besoin de dire. Je les ai entendus murmurer, je sais ce qui se passe. Tout le monde croit que j'ai tué cette femme grâce à vos larbins. » Il finit par sortir de derrière la porte, révélant une tenue débraillée et deux mains vides. Il frappa du doigt la poitrine de Miller. « C'est de votre faute si je suis dans cette merde, » dit-il à l'enquêteur. « Il faut que vous m'aidiez, vous me devez ça. » Et si on en discutait ? Miller avança enfin, ouvrit la porte avec son pied et poussa doucement Aidan vers l'entrée. Le jeune homme, apparemment inconscient des frayeurs qu'il avait causées aux policiers, fit volte-face et se dirigea vers le fond de la maison où, comprirent-ils, il habitait un deux-pièces. L'endroit était exigu. Une kitchenette, un canapé à fleurs, une télévision hors d'âge. Didi supposa que c'était à la propriétaire, Madame April O'Lehan, qu'on devait la décoration parce qu'elle ne s'imaginait pas qu'un garçon d'une vingtaine d'années puisse être à ce point fan des napperons au crochet. Aidan ne s'assit pas, mais resta debout près du plan de travail de la cuisine. Il portait un élastique vert au poignet gauche qu'il faisait claquer compulsivement. « Qui sont ces types et que vous ont-ils dit ?» demanda Didi en regardant le poignet du jeune homme rougir et en se demandant pourquoi la douleur ne le faisait pas sursauter. « Je ne dirai plus rien, » déclara précipitamment Aidan. « Plus je vous en dis, plus je suis mort. C'est juste... Donnez-moi une protection. Un véhicule de patrouille, un motel dans le coin, quelque chose. Il faut que vous fassiez quelque chose. » Didi jugea que Colin Pickler avait raison. Aidan Brewster était un génial de première. Dans le rôle du méchant flic, elle se sentit autorisée à répondre « Si à un moment ou à un autre vous souhaitez porter officiellement plainte contre un de vos collègues, nous serons ravis d'étudier la question, mais en attendant, il n'y a rien que nous puissions faire. » Elle eut l'impression que les yeux d'Aidan, en proie à la panique, allaient se révulser. Miller tensa Didi du regard. « Et si on commençait par le début ?» dit le gentil flic d'une voix lénifiante en sortant son dictaphone et en le faisant démarrer. « On va bavarder un peu et résoudre tout de suite ce problème. » « Montrez-vous un peu coopératif, Aidan, et peut-être qu'on pourra vous renvoyer l'ascenseur en annonçant que vous êtes hors de cause dans cette affaire. Ça marche ?»« Ça marche, » murmura le jeune garçon. Clac, clac, clac de l'élastique. « Bon. » Miller rapprocha le dictaphone d'Aidan et passa aux choses sérieuses. Pendant qu'il monopolisait l'attention du gamin, Didi en profita pour se balader dans l'appartement. En l'absence de mandat, elle était limitée aux objets en vue, mais un petit repérage ne faisait jamais de mal. Elle entra dans la chambre où l'odeur lui fit plisser le nez. « Connaissiez-vous Sandra Jones ?» demanda Miller dans le salon. Didi observa les draps froissés, un tas de vêtements sales, essentiellement des jeans et des t-shirts blancs, une corbeille qui contenait des Kleenex usagés, un coin de magazine dépassé dessous le matelas, du porno, supposa-t-elle. « Que cacherait-on d'autre sous le matelas ?» Ouais, bon, je l'ai croisée, mais je ne la connaissais pas dans le sens connaître, répondit Aidan. Je la voyais de temps en temps dans la rue, elle jouait avec sa gamine, mais je changeais toujours de trottoir, je vous jure. Et ouais, c'est vrai, je me souviens qu'elle est venue au garage, maintenant que vous le dites. Mais je travaille pas à l'accueil, je suis dans l'atelier, et seulement dans l'atelier. Vito connaît les termes de ma libération conditionnelle. De quelle couleur sont ses cheveux? Demanda Miller. Blond, répondit-il en haussant les épaules. Ses yeux? Aucune idée. Elle est jeune, pas loin de votre âge. Tiens, vous voyez, même ça, je ne savais pas. Didi avait la nausée. Avec la pointe de son stylo, elle sortit un peu plus le magazine. Elle crut reconnaître un penthouse, pas de quoi fouetter un chat. Elle lâcha l'affaire tout en se demandant déjà ce qu'Aidan Brewster pouvait cacher d'autre sous son matelas. Parlez-moi de la soirée de mercredi, demandait Miller. Est-ce que vous êtes sorti? Vous avez vu vos amis? Quelque chose de particulier? Didi s'approcha de ce qui avait l'air d'un placard. Elle vit d'autres vêtements qui débordaient, des chaussettes blanches, des sous-vêtements sales. La porte était ouverte d'une dizaine de centimètres. Elle décida de passer à une quinzaine. Elle vit une chaînette qui descendait du plafond et tira dessus pour allumer le plafonnier. Je n'ai pas d'amis, protesta Aidan. Je vais pas dans des bars, je traîne pas avec des potes, je regarde la télé, surtout des rediffs. J'aime Seinfeld, parfois un peu de New York pour les judiciaires. Racontez-moi ce que vous avez vu mercredi soir. Seinfeld était maître chez lui, répondit sèchement Aidan, et McCoy poursuivait un genre de gourou qui se prenait pour Dieu. Didi vit encore des tas de vêtements. Elle tiqua, recula, puis s'immobilisa. Elle regarda à nouveau les tas de linge sale au sol de la chambre, puis le tas dans le placard. Combien de jeans et de t-shirts blancs peut posséder un seul individu? Les objets en vue, les objets en vue. Elle posa le pied sur le tas du placard, appuya. Et de fait, elle sentit quelque chose de dur, métallique, pensa-t-elle. Rectangulaire, assez gros. Ordinateur, boîte, coffre-fort. Un ordinateur violerait les conditions de sa remise en liberté. Intéressant. Elle recula à nouveau, se mordilla la lèvre inférieure, hésita. Ne me faites pas marcher, disait à présent Miller, parce que je peux vérifier ce qui a été diffusé mercredi soir. Si vous me racontez des conneries, vous serez convoqué au commissariat et ce coup-ci, on ne rigolera plus. Je n'ai rien fait, explosa Aidan. La disparition d'une femme dans votre rue serait une pure coïncidence. C'est une adulte. Quoi, vous avez lu mon dossier? Qu'est-ce que j'aurais à foutre avec une mère de famille? Ah, mais c'est une jeune et jolie mère de famille, du même âge que vous, qui se sent seule, elle aussi. Son mari travaille la nuit. Peut-être qu'elle avait seulement envie de parler, peut-être que ça a commencé comme une amitié. Est-ce qu'elle a appris ce que vous aviez fait, Aidan? Est-ce qu'elle a découvert l'histoire de votre premier amour et pété un câble? Je n'ai jamais parlé avec elle, demandé à n'importe qui. Quand cette femme sortait, elle était avec sa gamine, et je ne m'approche pas des enfants. Vous avez perdu votre emploi, Aidan, vous devez être furieux. Ben tiens! Tout le monde pense que c'est vous. Le garage est plein de gars qui veulent vous punir pour l'exemple. Je comprends que vous soyez sur les nerfs. Ben tiens! Vous avez mal au poignet? Demanda Miller à brûle-pourpoint. Hein? Vous avez mal au poignet? Ça fait 10 minutes que vous faites claquer ce truc. Parlez-moi de cet élastique, Aidan. Ça fait partie de votre thérapie? Un coup d'élastique chaque fois que vous avez des pensées obscènes impliquant des enfants? Ben dis donc, vous en avez des pensées obscènes aujourd'hui. Oh, la ferme, vous savez rien de rien. Je m'intéresse pas aux enfants, je m'y suis jamais intéressée. Donc une mère de famille de 23 ans n'est pas à exclure. Ça suffit, vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Je suis tombée amoureux de la fille qu'il fallait pas, d'accord? C'est la seule chose que j'ai fait de mal. Je suis tombée amoureux de la fille qu'il fallait pas, et aujourd'hui j'ai une vie de merde. Ça s'arrête là. Didier ressortit de la chambre. Sa soudaine réapparition fit sursauter Aidan et elle vit qu'il prenait conscience du fait qu'elle avait quitté la pièce et de l'endroit où elle avait dû aller. Il baissa immédiatement les yeux. Didi adorait les menteurs prévisibles. Et Aidan, et si vous nous faisiez visiter votre chambre? Il eut un sourire amer. J'ai comme l'impression que c'est déjà fait. Oui, mais je me pose une question. Si on regardait ensemble? Non. Non? Dit-elle, feignant la surprise. Voyons, Aidan, vous vous montriez si coopérant. Comme l'a dit Miller, plus tôt vous serez blanchi, plus tôt on pourra faire passer le message en quartier. Je suis sûre que Vito serait ravi d'apprendre que son mécanicien préféré peut reprendre le boulot. Aidan ne répondit pas. Il avait cessé de faire claquer l'élastique. Son regard volait d'un point à l'autre de la pièce sans jamais se poser. Il cherchait une porte de sortie. Pas physiquement, mais un mensonge, un prétexte, un mot magique qui ferait disparaître son problème. Il n'en trouva aucun, et Didi vit ses épaules se voûter comme s'il se préparait à prendre un coup. « Je veux que vous partiez maintenant, » dit-il. « Aidan, » commença Miller, « vous n'allez pas m'aider, » l'interrompit brutalement le jeune homme. « On le sait tous, alors épargnez-moi vos conneries. Pour vous aussi, je suis qu'un pervers. Et ça n'a pas vraiment d'importance que j'ai purgé ma peine ou que j'ai suivi ma thérapie et respecté les conditions de ma remise en liberté. Quand on est un pervers, on le reste. C'est comme ça, non ? Je n'ai pas touché cette femme. Je l'ai dit à Vito, je l'ai dit à son mari. Vous l'avez dit à son mari ? » intervint Didi. « Ouais, » répondit Aidan en relevant la tête d'un air belliqueux. « J'ai eu une petite conversation avec le mari. Il a eu l'air vachement intéressé de savoir qu'un délinquant sexuel habitait dans la rue. En fait, » dit-il avec un regard calculateur, « je parie qu'il vous a tout dit sur moi. » Didi ne répondit pas. « C'est plutôt commode pour lui, vous ne croyez pas ? Ben tiens, vous êtes ici, à me questionner moi, donc vous ne pouvez pas être là-bas à le questionner lui. Ouais, je dirais que ma présence est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à M. Jones. Je me demande combien de temps il se passera avant qu'il parle de moi à la presse, hein. Ça va bien les exciter. » Alors maintenant que j'y pense, ce n'est pas seulement dans mon intérêt que je sois innocentée de ces accusations ignobles, c'est aussi dans le vôtre, pas vrai ? Parce que tant que vous serez focalisé sur moi, vous ne pourrez pas agir contre lui. Je parie qu'il le sait. Il n'a pas froid aux yeux, Monsieur Jones. Je parie qu'il sait un sacré paquet de choses. Didi ne dit pas un mot. Elle garda un visage lisse, serein. Seuls ses poings se serrèrent dans son dos. « Montrez-moi votre placard, Aidan. » « Non, merci. » « Aidez-moi maintenant si vous ne voulez pas que je vous arrête plus tard. » Le gamin n'avait plus l'expression d'un homme pris au piège. À présent, il avait l'air carrément insolent. « Je tente ma chance. » « Vous savez quoi, Aidan, je n'ai pas de préférence pour un criminel plutôt qu'un autre. Vous, Monsieur Jones, le croque-mitaine du placard. Je vais tous vous arrêter et laisser le tribunal faire le tri, ça me va. » « Vous ne pouvez pas. La présence de plusieurs suspects ferait naître un doute raisonnable. » « Oui, mais il peut se passer des mois avant le procès. » Des mois à croupir en tôle, sans pouvoir payer la caution, pendant que la nouvelle se répand qu'il y a un délinquant sexuel avéré dans la cellule 11. Il blêmit. La prison ne réussit pas aux délinquants sexuels. Les détenus possèdent un code moral bien à eux, et selon le système de valeurs qui prévaut derrière les barreaux, chouriner un pervers avec une lame métallique est un excellent moyen de gagner de l'avancement. On se fait une réputation et on ajoute une larme sur sa joue tout en bâtissant un monde meilleur. Aidan avait eu raison dans sa première déclaration. Sa vie était merdique et les possibilités qui s'offraient à lui aussi. Mais le gamin l'a surpris en montrant un peu de courage qui lui avait fait défaut jusqu'à présent. « Je n'ai rien fait à cette femme, » dit-il avec raideur. « Mais j'ai quand même vu quelque chose. » Didi tendit l'oreille. Miller sursauta aussi. Une telle révélation semblait un peu tardive, ce qui éveillait forcément leur méfiance à tous les deux. J'ai entendu un bruit mercredi soir. Quelque chose m'a réveillée. Fallait que je pisse. Alors je me suis levée, j'ai regardé par la fenêtre. Quelle fenêtre ? L'interrompit Didi. Celle de la cuisine au-dessus de l'évier, dit Aidan en la désignant. Didi s'approcha de la kitchenette. Dans le quartier, la plupart des maisons étaient mitoyennes, mais le pavillon voisin se trouvait très en retrait de la rue, ce qui donnait à Aidan une vue bien dégagée. J'ai vu une voiture passer, au pas. Comme si elle venait juste de sortir d'une allée. Normalement, je ne ferais pas attention plus que ça, mais à 1h du matin, c'est un horaire bizarre pour faire des allées et venues dans ce quartier. Didi ne répondit rien, même si en réalité, le voisin d'Aidan, Jason Jones, faisait couramment des allées et venues aux petites heures du matin. La voiture avait l'air spéciale, indiqua Aidan. Plein d'antennes sur le toit, comme une limousine, un de ces véhicules avec chauffeur. Quelle couleur ? Demanda Miller. Sombre. Plaque d'immatriculation. À 1h du mat. Hé, j'ai pas des rayons X intégrés. D'où venait la voiture ? De la même direction que la maison de Sandra Jones. Vous savez comment elle s'appelle ? Intervint sèchement Didi. Aidan la fusilla du regard. Tout le monde le sait. Vous avez donné son nom aux infos. Vous vous foutez de nous, Aidan. C'est bien pratique de balancer d'un seul coup un témoignage oculaire. Je me le gardais en réserve. Faut rien donner gratuitement, pas vrai ? Alors si vous avez envie de m'arrêter, considérez ça comme le prix de consolation. Je n'ai pas agressé cette femme. Mais peut-être qu'en retrouvant cette voiture, vous retrouverez le coupable. Il me semble avoir déjà expliqué que ce serait dans notre intérêt à tous. Didi devait accorder ça au gamin. Elle avait envie de l'envoyer au tapis, et il lui avait totalement interdit l'accès de son placard. Elle jeta un regard vers Miller et lut la même analyse dans ses yeux. L'audition était terminée. Réel ou non, une vague description d'un mystérieux véhicule serait ce qu'ils obtiendraient de mieux. « Nous resterons en contact avec votre conseillère d'insertion », informa-t-elle Aidan. Il acquiesça. « Naturellement, vous nous tiendrez au courant si vous changez d'adresse. Naturellement, vous me fournirez une protection policière quand j'aurai été passé à tabac », rétorqua-t-il. « Je vois que nous sommes d'accord. » Miller et elle se dirigèrent vers la sortie. Dans leur sillage, Aidan ferma ostensiblement la porte à clé derrière eux. « Eh bien, une franche partie de rigolade », commenta Miller dans l'allée. « Il a un truc planqué dans son placard, c'est clair. Un ordinateur, un coffre-fort, quelque chose. » Tant de mandats de perquisition à demander, si peu d'arguments juridiques pour le faire, soupira Miller. Sans blague. Ils arrivèrent à la voiture et Didi se retourna pour un dernier regard vers la maison. Elle vit la parcelle étroite et tout en longueur, les arbres à l'arrière qui isolaient un peu la modeste maison de sa tentaculaire voisine. « Attendez une seconde, » dit-elle, « faut que je vérifie un truc. » Elle passa à l'arrière de la maison au petit trot, sous le regard perplexe de Miller. Il ne lui fallut qu'une minute ou deux. Enfant, elle avait toujours grimpé aux arbres comme une championne et les branches du vieux chêne formaient une échelle idéale. Elle monta, observa, puis se laissa dégringoler et revint à toute allure avant que quiconque ne s'en aperçoive. « Écoutez ça !» dit-elle en regagnant la voiture tout essoufflée. Elle ouvrit la portière, se glissa à l'intérieur pendant que Miller démarrait. « Depuis l'arbre du jardin, on a une vue imprenable sur la chambre de Sandy et Jason Jones. » « Baratineur, » marmonna Miller. « Ouais, mais est-ce que c'est le baratineur qu'on cherche ? Je le sens pas, ce type. » Didier acquiesça d'un air pensif pendant que Miller s'engageait sur la chaussée. Il n'était pas plus tôt arrivé au pont que la radio de Miller se mit à crépiter. Il prit l'appel, puis alluma ses gyrophares et fit demi-tour sur les chapeaux de roue pour reprendre la direction de South Boston. Didier s'accrocha au tableau de bord. « Mais qu'est-ce que... Ça va vous plaire ?» lui expliqua Miller avec excitation. « On signale un incident au collège de Sandra Jones. »